Le Saint-Esprit est extraordinaire parce que c'était le cantique que je voulais qu'on chante par rapport au message. Et Sylvain ne le savait pas. Mais le Saint-Esprit le savait, donc c'est impressionnant. Je voudrais donc lire ce matin dans... Ça n'enregistre pas. Je voudrais donc lire ce matin dans l'Évangile de Luc, chapitre 19. Ce passage sur les rameaux, la fameuse entrée de Jésus à Jérusalem. Luc 19, je vais lire à partir du verset 28. Après avoir ainsi parlé, Jésus marcha devant la foule pour monter à Jérusalem. Lorsqu'il approcha de Bethphagée et de Béthanie vers la montagne appelée Montagne des Oliviers, Jésus envoya deux de ses disciples en disant « Allez au village qui est en face. Quand vous y serez entrés, vous trouverez un ânon attaché sur lequel aucun homme ne s'est jamais assis. Détachez-le et amenez-le. Si quelqu'un vous demande « Pourquoi le détachez-vous » vous lui répondrez « Le Seigneur en a besoin ». Ceux qui étaient envoyés allèrent et trouvèrent les choses comme Jésus leur avait dit. Comme ils détachaient l'ânon, ses maîtres leur dirent « Pourquoi détachez-vous l'ânon ?» Ils répondirent « Le Seigneur en a besoin ». Et ils amenèrent à Jésus l'ânon sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et firent monter Jésus. Quand il fut en marche, les gens étendirent leurs vêtements sur le chemin. Et lorsque déjà il approchait de Jérusalem vers la descente de la montagne des Oliviers, toute la multitude des disciples, saisie de joie, se mit à louer Dieu à haute voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. Ils disaient « Béni soit le roi qui vient au nom du Seigneur, paix dans le ciel et gloire dans les lieux très hauts. » Quelques pharisiens du milieu de la foule dirent à Jésus « Maître, reprends tes disciples. » Et il répondit « Je vous le dis, s'ils se taisent, les pierres crieront. » Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit « Si toi aussi, au moins en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix, mais maintenant elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. » Voilà donc cette entrée, cet événement extraordinaire. Jésus arrive, c'est la dernière semaine de sa vie sur terre. Le jeudi, il sera arrêté dans la nuit et amené à un tribunal, à plusieurs tribunaux, et condamné à mort. C'est un grand pèlerinage des Juifs à cette époque-là, c'est le pèlerinage pour la Pâque. Tous les Juifs du monde entier, qui pouvaient le faire, se rendaient à Jérusalem. Et il y avait donc des gens partout qui marchaient sur les chemins de tout lieu et qui convergeaient vers la petite Jérusalem. C'est une petite ville, hein, et ça devait être vraiment très étroit pour contenir ces milliers de gens. Et il y a les disciples de Jésus, il y a des foules qui sont là, qui ne connaissent pas forcément Jésus, mais tous sont frappés par les miracles qu'ils ont vus, des gens qui sont guéris instantanément, même des morts qui sont ressuscités, et ils décident de l'acclamer comme roi. Pourquoi ? Parce que Jésus lui-même entre sur un ânon, il demande qu'on prépare un ânon pour lui. Et ça accomplit une prophétie du prophète Zacharie, 9:9. « Sois transportée d'allégresse, fille de Sion, pousse des cris de joie, fille de Jérusalem. Voici, ton roi vient à toi. Il est juste et victorieux, il est humble et monté sur un âne, sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Et Jésus, en entrant à Jérusalem, accomplit cette prophétie. Il dit « Je suis le roi d'Israël, je suis le Messie que vous attendez. » Et beaucoup le reconnaissent ainsi, et même dans d'autres évangiles, hein, ils disent « Hosanna ». Ici, Luc, comme il s'adressait à des Romains, il ne donne pas les noms juifs, lui, il ne donne pas les noms hébreux. Mais en hébreu, « Hosanna », ça veut dire « sauve, de grâce, pitié, s'il te plaît, maintenant, sauve-nous. Il l'acclame comme le Messie. Qu'est-ce qui peut sauver si ce n'est Dieu, si ce n'est le Messie? D'ailleurs, c'est une citation d'un psaume, le psaume 118, verset 25, que je vous lis ici. « Ô Éternel, accorde le salut, ô Éternel, donne la prospérité. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous vous bénissons de la maison de l'Éternel. L'Éternel est Dieu et il nous éclaire. » Pourquoi le psaume 118? Parce que lorsque les Juifs se rendaient à Jérusalem pour la Pâque, ils chantaient des cantiques tirés des psaumes. C'est ce qu'on appelle les cantiques des degrés. Les degrés, ça veut dire c'est des marches. Hein? Les cantiques des marches, tout en marchant et tout en montant vers Jérusalem, ils chantaient un certain nombre de psaumes qui se trouvent là, autour du psaume 118. Hein? Et ils ont prononcé cette phrase, « Sauve, hein? Sauve-nous, Éternel !» Et les disciples de Jésus ont dit, « Oui, c'est toi, Jésus, qui va nous sauver. Tu es le sauveur. » D'ailleurs, Yeshua, ça veut dire, hein, « Dieu sauve. » Jésus est appelé aussi « Fils de David hein? ». Et « Fils de David », c'est le Messie. Il n'y a pas d'autre fils de David que le Messie lui-même. Ils reconnaissent en lui le roi d'Israël, le Messie, celui qu'ils attendaient. Ils disent, c'est le prophète aussi que nous attendions, dont Moïse avait parlé. Hein, Jean, Dieu enverra un prophète comme moi et vous l'écouterez. La foule l'acclame, mais Jésus, lui, ne se réjouit pas. Même au contraire, hein, vous avez vu avec moi, il pleure sur Jérusalem. Derrière l'enthousiasme passager de la foule, le Seigneur voit les terribles moments qui l'attendent. Lorsqu'il sera arrêté, trahi, lorsque la foule, devant Pilate, hein, devant le prétoire, criera « Crucifie-le !» Lorsque Pilate dit « Je vous relâche Barabbas, condamne Barabbas et je vous relâche Jésus. » Et la foule va dire « Non, ne relâche pas Jésus, relâche Barabbas. Jésus, crucifie-le. » Jésus voyait tout ça. Il voyait aussi ce qui allait arriver à Jérusalem quand il dit hein, que des armées t'environneront, t'enfermeront. C'était 40 ans plus tard, en l'an 70, que les troupes romaines conduites par Tite allaient entourer Jérusalem et les faire mourir de faim dans un siège qui a duré des mois et massacrer tous les juifs, hommes, femmes, enfants, brûler le temple. Ce sera un jour noir pour les Juifs, pour Israël. Et Jésus voyait ça déjà, et c'est pour ça qu'il pleurait. Il voyait bien qu'ils n'ont pas reconnu le jour où ils ont été visités. Cette histoire des rameaux me touche parce que ça révèle la réalité de notre foi, ou non. Est-ce que ma foi est réelle ou pas? Ici, la foule acclame Jésus. Hosanna, fils de David, tu es le Messie. Ils jettent leurs vêtements, ils jettent des branches. Et ça veut dire qu'ils dressent le tapis rouge hein, devant lui. Une semaine après, crucifie-le. Que son sang retombe sur nos têtes. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait de l'enthousiasme, mais il n'y avait pas la réalité de la foi. Je pense aussi à Judas et à Pierre. Judas trahit Jésus pour quelques pièces d'argent. Judas, un des 12 hein, disciples les plus proches. Et puis après, il va se pendre. Il révèle sa vraie motivation, Judas. Sa vraie motivation, ce n'était pas Jésus, c'était l'argent, le pouvoir. Il utilise des moyens diaboliques, hein. Il ment, il dissimule, il manipule. Il se pend, preuve qu'il n'avait aucune vraie foi. Pierre, par contre, lui va renier Jésus, oui, trois fois même. Il va dire trois fois, non, je ne connais pas cet homme. Mais sa vraie motivation à Pierre, c'est quand même de suivre Jésus. C'est le seul qui a eu le courage de le suivre hein, pendant son procès. Tous les autres sont partis. Il est le seul qui est resté là, mais il n'a pas eu le courage d'aller jusqu'au bout, de dire, oui, je suis un disciple. Non, il a dit, je ne connais pas cet homme. Mais au lieu d'aller se pendre, Pierre pleurera, se repentira et sera rétabli et deviendra un grand apôtre. la réalité de la foi. Et pour moi, pourquoi la foule a-t-elle acclamé Jésus et puis ensuite l'a-t-elle dénoncé et a jeté jusqu'à la croix? Parce que cette foule attendait un salut illusoire. Ce que voulaient les gens, le peuple, c'est être débarrassés de leurs problèmes. Ils voulaient être débarrassés de l'oppression des Romains. Ils étaient sous le joug romain, sous occupation. Ils voulaient ne plus avoir de problèmes économiques. Pour eux, le Messie devait leur apporter la prospérité, la liberté, la puissance, la gloire. Et ils se sont dit, ce Jésus, il a une telle puissance, regardez les miracles qu'il fait, ça y est. Mais ils ont remarqué aussi, en regardant de plus près, que Jésus ne faisait rien de tout ça. Jésus ne cherchait pas la gloire, n'était pas en train de mettre les Romains dehors, il n'était pas un conquérant, un guerrier, il était extrêmement même paisible et pacifique. Et même juste après, là, il va dans le temple et il chasse les vendeurs du temple. Juste après ça. Au lieu de chasser les Romains, Jésus chasse des Juifs qui vendaient dans le temple. Ce matin, on est passé devant une église, hein, et ça continue toujours. Hein. Il y a des gens qui vendaient, hein, des rameaux. Alors, on ne va pas les chasser, hein. Mais Jésus, s'il passait, il les chasserait. Ils n'ont pas compris ce que Jésus était venu faire. Il est venu nous sauver du péché, pas de nos problèmes. Et c'est là que la réalité de la foi se fait jour ou pas. Est-ce que je veux que Jésus me sauve de mes problèmes? Oh, je suis triste, je suis malheureux. Oh, j'ai manque d'argent. J'ai des problèmes de santé. Seigneur Jésus, viens me sauver. Et c'est vrai que le Seigneur Jésus a délivré des millions de gens de la dépression, de problèmes de vie, etc. Mais ce n'est pas son but premier. Son but premier, c'est de me sauver de mes péchés. Parce que qu'est-ce qui cause tous ces problèmes dans la vie? La racine, c'est le péché. C'est l'orgueil. Pourquoi certains ont des problèmes d'argent? C'est parce qu'ils ne gèrent pas bien leur argent. D'autres, c'est parce qu'effectivement, c'est le gouvernement où ils sont, hein, qui ne gère pas bien l'argent. Ils sont victimes, hein, de leur gouvernement. Mais chaque fois, l'origine de nos problèmes, c'est le péché. Et on peut dire la maladie, est-ce que je suis malade parce que j'ai péché? Non. La maladie, tout le monde peut être malade, malheureusement, c'est notre lot. Mais la façon dont je réagis dans la maladie va changer tout. Je peux être totalement amer, abattu, dur avec mon entourage, dire je ne veux pas entendre parler de Dieu, ou je peux au contraire être dans la paix, dans la foi, et même dans la joie. Il y a des malades qui vous remontent le moral, parce qu'ils ont cette joie du Seigneur. Quelle est la réalité de ma foi? Dans l'évangile de Matthieu, hein, lorsqu'on a annoncé la naissance de Jésus, l'ange a dit: elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Ses péchés. Le prophète Ésaïe, chapitre 53, je vais vous lire ce passage qui annonce les souffrances du Messie à venir. Verset 5, « Il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. » Il ne parle pas de problèmes économiques ou de problèmes de santé. Il parle de péché. Verset 8, « Il a été enlevé par l'angoisse parmi ceux de sa génération. Qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple ?» Et c'est ça qui a dérangé cette foule. C'est pour ça qu'elle a dit « crucifie-le ». C'est qu'elle ne voulait pas faire face à son péché. La réalité de la foi, c'est lorsque vous faites face à vous-même. Pas chercher en Jésus le sauveur, le bon génie qui va m'aider dans ma vie. C'est la mode un peu des coachs qui vous aident à vivre mieux votre vie, qui vous aident à mieux manger, qui vous aident à mieux... plein de choses. Tout ça, c'est payant, bien sûr. Hein. C'est même très cher, les coachs. Et puis, l'idée, c'est... Il faut que tu vives mieux, il faut que tu sois plus épanoui, plus heureux, mieux dans ta peau. Et c'est vrai, tout ça c'est merveilleux, sauf que ça ne résout pas une question fondamentale, c'est le péché. Et si on ne résout pas la question du péché, on ne résout pas la question de la mort, qui est le salaire du péché. Et si on a une merveilleuse vie sur terre, mais qu'on va en enfer, on a raté sa vie. Jésus a dit, à quoi sert-il de gagner tout le monde si vous perdez votre âme ? Il y a plein de gens dans les églises qui ne sont pas là pour le Seigneur Jésus. Ils sont là, comme la foule, hein, pour être délivrés de leurs problèmes. Et lorsque le Seigneur dit « Ton problème, c'est ton péché », ah non, non, oh là, je ne veux pas de ce message. Moi, je veux un message positif, je veux qu'on me dise « Tu sais, tu es merveilleux, il faut que tu t'aimes toi-même. Il faut s'aimer soi-même. Ah, ça me parle. Oui, il faut que je m'aime. Et il faut que tu sois vraiment quelqu'un de merveilleux et tu es quelqu'un de merveilleux. Et grâce à Dieu, tu vas voir, il va transformer ta vie. » Et c'est vrai, Dieu transforme notre vie, mais d'abord, Dieu dit, tu es pécheur, tu es pécheresse. Il faut l'accepter. Il y a des milliards de gens qui sont chrétiens dans le monde, hein, des milliards. C'est la première religion au monde. Savez-vous si Jésus est le plus populaire parmi les chrétiens ? Qui est le plus populaire parmi les chrétiens ? Avant le pape ? La Vierge. Jésus n'est pas le plus populaire. Regardez le nombre d'églises catholiques qui ont Jésus dans leur nom. Il y en a très, très peu. Très, 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 très peu. La plupart, c'est Sainte Marie, 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 la Vierge. La Vierge est la plus populaire. Pourquoi ? Parce que la Vierge, justement, on nous l'a présentée comme une mère qui nous aime et qui va résoudre nos problèmes, qui ne va pas nous juger, qui ne va pas nous parler du péché, justement. Mais Jésus, lui, on sait bien qu'il y a un rapport avec le péché, parce que s'il a été cloué sur la croix, ce n'est pas par plaisir, c'est pour nous sauver du péché, de nos péchés, pas du péché en général, de nos péchés. Et ce n'est pas très populaire. Mais Jésus n'est pas venu pour être populaire. D'ailleurs, quand on l'a acclamé roi, là, hein, il a pleuré. Il a pleuré. Une fois, on avait voulu même le faire roi, il avait refusé. Il n'était pas venu pour guérir les gens par des miracles. Ces miracles attestaient qu'il était le Messie. Mais son but, ce n'était pas de guérir tout le monde des maladies. Son but, c'était de sauver les âmes du péché. Pourquoi Judas, l'Iscariote, a-t-il trahi Jésus alors que c'était un des 12 ? Pourquoi s'est-il pendu ? Et pourquoi Pierre, lui, qui a renié 3 fois, a-t-il été restauré parmi les disciples ? Parce que Judas, lui, il était amer. Il avait été déçu par Jésus, justement. Il avait suivi Jésus, pensant qu'il allait juste lui donner fortune et gloire. Il s'attendait, en étant un des 12, à être un des grands ministres qui allait avoir un beau portefeuille et régner avec Jésus, dominer sur les Romains, dominer sur son peuple juif aussi, et s'enrichir. La Bible dit qu'il tenait la bourse et que plusieurs fois, il volait dans la bourse commune des disciples. Hein. Il volait. C'était un voleur. Mais on se dit, pourquoi Jésus a choisi un voleur parmi ses disciples ? Ça, c'est le plan de Dieu et on ne peut pas expliquer ça. Il pensait gagner de l'argent facilement. Il est allé voir les autorités, il a dit, bon, vous voulez arrêter Jésus, vous voulez le condamner ? Oui, allez, vous me donnez 30 pièces et moi je vous le livre. Et donc, ils lui ont donné cet argent et il a fait ce qu'il devait faire. Et comment il l'a fait ? Il l'a fait très bien. Il est allé voir Jésus à la sortie du jardin de Gethsémané et il lui a fait un baiser. Le baiser de Judas, hein. Ça porte bien son nom aujourd'hui. Hein. C'est vraiment le traître absolu. C'était écrit d'ailleurs dans les psaumes, hein, qu'il serait trahi par un ami. Et Jésus s'est laissé faire, mais quand il a vu que Jésus ne se défendait pas dans ses procès, que Jésus ne disait pas « Oh mais c'est scandaleux, je suis innocent !» Non, Jésus ne disait rien. Même il rajoutait, il disait « Vous verrez le Fils de l'homme assis à la droite de Dieu. Es-tu le Messie ? Oui, je le suis, tu l'as dit. » Il a été condamné pour blasphème. Quand Judas a vu que Jésus était condamné, il a été déçu. par Jésus. Il pensait que Jésus allait s'en tirer, soit par un miracle extraordinaire, soit simplement en disant, mais vous n'avez aucune preuve, laissez-moi partir. Comme il s'en était tiré les autres fois. Judas n'aimait pas Jésus, n'aimait pas le royaume de Dieu. Il s'aimait lui-même, il aimait l'argent, il suivait Jésus par intérêt, et lorsque son intérêt a été perdu, il est allé se pendre. Il a révélé son vrai état d'esprit. D'ailleurs, quand Jésus a pris le repas, qu'il a institué le pain et le vin comme symbole de son corps et de son sang, il l'a fait après que Jésus soit sorti. Il a attendu que Judas soit sorti. Il n'a pas fait ce repas avec Judas. Pierre, lui, on peut dire qu'il a été lâche. Franchement, je ne sais pas ce que nous aurions fait. Lui, au moins, il a essayé de suivre Jésus pour voir ce qui se passait. Il était inquiet pour le Seigneur. Qu'est-ce qu'ils vont lui faire? Qu'est-ce qu'ils vont dire? Et puis, d'un seul coup, il y a quelqu'un qui se tourne vers lui et dit « Donc, tu as l'accent galiléen, toi hein ?» Alors, ils avaient un accent, les Galiléens. Tu dois être un des disciples, parce que Jésus était connu pour être entouré de Galiléens, de Nazareth. Et il dit « Non, 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 moi, je connais pas cet homme. Mais qu'est-ce que tu fais là, toi, autour du feu à... Ah, mais je suis là pour rien, je suis curieux, mais je ne connais pas cet homme. » Et la troisième fois même, il dit « Je le jure !» Terrible, hein. Mais Pierre, c'était un impétueux, un présomptueux. Il dit, mais moi, Père, si tout le monde te trahissait, moi, je ne te trahirais pas. Bon, vraiment, on peut pardonner à Pierre parce qu'au fond, Pierre, ce qu'il voulait, c'est être près du Seigneur. Et le Seigneur l'a pardonné. Le Seigneur lui a dit, peut-être vous connaissez dans l'évangile de Jean, Pierre, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre dit, tu sais que je t'aime. Et Jésus lui dit avec un mot particulier, un mot agapé, hein, le mot de l'amour suprême, et Pierre y répond en disant « Je t'aime de l'amour humain. » Pierre, est-ce que tu m'aimes? Deuxième fois. Tu sais que je t'aime, amour humain. Et troisième fois, parce qu'il a renié trois fois, Jésus lui demande trois fois « Est-ce que tu m'aimes ?» Et la troisième fois, Jésus dit « Est-ce que tu m'aimes de l'amour humain ?» Il descend au niveau de Pierre. Et Pierre dit « Tu sais toute chose, Seigneur. » Et Jésus l'a réinstallé, restauré. Ça peut arriver qu'un chrétien chute, qu'un chrétien soit lâche, qu'un chrétien s'éloigne de Dieu. Mais s'il est vraiment dans la réalité de la foi, il ne va pas lâcher le Seigneur, jamais. Pierre a dit, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Il y a plein de gens qui avaient laissé tomber Jésus de son vivant déjà. Il ne faut pas penser que Jésus... tout le monde était accroché à lui. Non, il y a plein de gens qui l'ont quitté parce que justement, ils ont compris qu'ils n'allaient pas les délivrer des Romains. Alors ils sont retirés. Et Jésus a dit, vous aussi, vous allez vous retirer? Non, Seigneur, tu as les paroles de la vie. À qui irions-nous? Ça, c'est le vrai disciple, ça, c'est le vrai croyant. Mais le faux croyant, il est là par intérêt. Jésus pleure au milieu de cette foule qui l'acclame, parce qu'il sait qu'un certain nombre est totalement aveuglé, qui ne voit pas ce qui va leur arriver, qui ne voit pas que Jésus est le sauveur de leur vie, de leur péché, pour la vie éternelle. Ils voient en lui simplement un héros, comme certains croient en un homme politique, en disant « cet homme ou cette femme politique va résoudre tous mes problèmes ». On sait bien que ce n'est pas possible. Mais Jésus, il n'est pas venu résoudre mes problèmes, il est venu me sauver, me réconcilier avec Dieu. Et quand je suis avec Dieu, mes problèmes ont une autre teneur. Tout se met en place. J'ai des problèmes, j'ai des soucis, comme les autres. Même parfois, les chrétiens ont plus de problèmes parce qu'ils sont persécutés dans d'autres pays que la France. Hein. Être chrétien, c'est très compliqué. Mais pourquoi il y a toujours des gens qui deviennent chrétiens? Parce qu'ils aiment le Seigneur. Le premier commandement, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme. Est-ce que j'aime le Seigneur? C'est ça la réalité de la foi. Et j'aimerais vous inviter, nous inviter à se poser la question ce matin. Et moi, est-ce que je serai dans la foule, dire « Hosanna !» et puis « Crucifie-le » Est-ce que je suis un croyant du dimanche ou est-ce que je suis un vrai disciple? Est-ce que je suis attaché à Dieu? Est-ce que lorsqu'il y a une épreuve, je laisse tomber? Quand il y a une difficulté, je dis, oh là là, c'est trop dur d'être chrétien. Ou si le Seigneur m'a délivré de quelque chose et que la chose revient. Par exemple, j'ai été guéri d'une maladie et la maladie revient. Est-ce que je dis, ah non, tout ça, non, non, non. Ou est-ce que je fais face? Pensez à Job, hein, dans le livre de Job. Job, c'était un homme qui était très près de Dieu et pourtant il a eu des choses terribles qui lui sont arrivées. Mais il n'a pas laissé tomber le Seigneur. Il s'est découragé. Il a vraiment été au bout de lui-même, Job. Il n'en pouvait plus, il ne comprenait rien à ce qui lui arrivait. Mais il n'a jamais lâché le Seigneur. Et c'était une grande victoire, justement, cette épreuve de Job, parce que Job a prouvé à Satan, sans le savoir, qu'un être humain pouvait aimer Dieu dans les pires difficultés. Satan, lui, avait dit au début du livre de Job, hein, il avait dit à Dieu, écoute, laisse-moi toucher à sa vie, à ses enfants, à ses biens matériels, et tu verras qu'il va te renier. Eh bien, Job n'a pas renié le Seigneur. Il avait une foi réelle, une foi profonde. Et cette foi, c'était l'amour pour Dieu. C'est pour ça que je voulais qu'on chante « Mon Jésus, je t'aime ». Parce que la vraie foi, elle aime Dieu. Et pas d'un amour sentimental, pas le dimanche matin quand je chante un cantique, mais dans l'épreuve, dans la difficulté, sous la pluie, avec un patron difficile ou avec une maladie ou avec des soucis quotidiens, il continue d'aimer Dieu, de louer Dieu, de servir Dieu, de croire en Dieu. Ça, c'est la réalité de la foi. Si vous n'êtes pas dans cette réalité de la foi, la porte est ouverte. Le Seigneur ouvre toujours la porte. Et vous pouvez confesser vos péchés à Dieu. Dire, Seigneur, oui, je ne suis pas un vrai chrétien. Je suis un chrétien du dimanche. Je ne suis pas quelqu'un qui t'aime. Je suis là parce que j'ai peur de la mort. Je veux essayer d'avoir ta bénédiction. Mais je ne suis pas là pour toi. Je ne suis pas là pour t'adorer. Je ne suis pas là pour donner ma vie à Dieu. Seigneur, je t'en demande pardon. Mais je veux redémarrer. Je veux être un vrai chrétien. Vous savez que dans l'histoire de l'Église, il y a eu parfois des responsables d'Église qui n'étaient pas convertis. Cet évangéliste hein, qui avait prêché dans une église et il y avait le pasteur et les diacres qui étaient là pendant le message de l'évangéliste et l'évangéliste a fait un appel à la fin. Il dit « Qui ici n'est pas sauvé? Qui ici n'est pas vraiment converti ?» Et le diacre s'est levé. Il y a une sorte de murmure dans l'assistance. Le diacre! Et en fait, il y avait plein de gens dans cette église qui étaient membres de l'église mais qui n'étaient pas convertis. J'espère que ici, beaucoup sont convertis, mais peut-être vous ne l'êtes pas encore. Se convertir, c'est se tourner vers Dieu. C'est donner tout son cœur à Dieu. Ce n'est pas juste prononcer des mots ou une prière toute faite, mais c'est vraiment se tourner complètement. Seigneur, prends ma vie, sauve-moi, pardonne-moi. Viens à mon secours, viens à mon aide, parce que le péché ruine ma vie. Alors on va terminer par la prière et pendant ce moment de prière, j'aimerais justement vous laisser cette occasion. Où en êtes-vous avec Dieu? Êtes-vous dans la foule qui crie? Ou est-ce que vous êtes un vrai disciple? Si vous êtes encore à l'extérieur, le Seigneur vous appelle ce matin à vous repentir, à vous humilier même, à venir à lui. Seigneur, je suis pécheur, je suis pécheresse. J'ai offensé ta personne, j'ai offensé ta loi, j'ai désobéi à ta volonté. Et je te demande pardon pour tout cela. Même j'ai fait semblant d'être chrétien. Seigneur, je te demande pardon pour cela. J'ai honte. Car un vrai chrétien, c'est quelqu'un qui t'aime. dans la prospérité comme dans l'adversité. Et ce n'était pas mon cas. Seigneur, remplis mon cœur. Je me donne à toi ce matin. Sauve-moi pour l'éternité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est dans ce cas ce matin et vous voulez qu'on prie pour vous? Est-ce que vous seriez prêt à juste lever la main pour demander la prière en la baissant aussitôt? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'assistance dans la prière? Ouais. Vous pouvez baisser la main. J'attends un instant. Notre Père, merci pour ta grâce, ta bonté, ta patience. Et tu sais où nous en sommes, tu lis dans les cœurs. Et je te prie, Seigneur, pour ces personnes qui ont levé la main, que tu vraiment te révèles à elles, que tu combles leur cœur. Et si elles ne sont pas vraiment converties encore, que ce soit le jour de leur conversion. Si ils ne t'aiment pas encore assez ou correctement, Seigneur, que tu leur montres comment faire. Merci parce que lorsqu'on vient à toi, tu nous accueilles toujours. Tu ne mets pas dehors quelqu'un qui vient à toi. Merci de nous pardonner comme tu as pardonné au fils prodigue, comme tu as pardonné à Pierre. Merci Seigneur de ce qu'on peut toujours revenir à toi. Et je veux te louer parce que tu es notre roi Seigneur. Oui, tu es le roi de notre vie. Tu es notre Messie, notre Sauveur. Et nous attendons de te revoir Seigneur. Au nom de Jésus. Amen.